CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Alors aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on déguste ? On va faire honneur au syndicat de défense de l'AOC des vins des coteaux du Quercy. Nous avons le plaisir de recevoir Jacques Vignal, le président du syndicat. Monsieur Vignal, bonjour.
Bonjour.
J'ai regardé dans les archives de Qu'est-ce qu'on déguste, votre dernière émission parmi nous, c'était en 2008.
C'est tout à fait ça, sûrement.
Ah, ouais. Bah oui, c'était ça. Vous en avez un bon souvenir ?
Il est venu plusieurs fois.
Je suis. Hein ? Je suis à Cossal.
Oui.
C'est encore plus ancien. Mais la dernière, je dis bien la dernière, c'était en 2008. Nous n'avons jamais reçu Catherine Tournaire, qui est la technicienne du syndicat des vins des coteaux du Quercy. Bonjour.
Bonjour.
Je suis bien contente de vous recevoir, ma chère.
Et moi aussi, je suis bien contente d'être là. On se voit sur site, mais jamais.
Eh ben oui. On se voit dans les vignes avec les bottes en caoutchouc à chaque fois.
Tout exactement, ça. Ou dans les chais avec un verre.
Ah oui, voilà.
Oui, il est plus souvent dans un chais avec un verre que dans les vignes avec les bottes.
C'est volontiers que je vous invite avec les bottes.
Eh bien, pourquoi pas, on ira.
Hein. Ben oui.
Voilà. Il n'y a pas de problème. Virginie Banzi est l'animatrice du syndicat des vins des coteaux du Quercy. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Surtout que cette émission s'est un petit peu faite comme ça, rapidement. Mais c'est ça aussi, la radio de proximité. Réactivité. Hop, hop. Voilà. Hop, hop. On a vu que les vignerons du Quercy accueillent le public lors des journées portes ouvertes demain et après-demain. Donc le 24 et 25 novembre. Et donc on s'est dit, voilà.
On va ouvrir les portes.
C'est l'occasion d'ouvrir les portes. Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Georges Bonfils, bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Bory, bonjour.
Bonsoir.
Voilà l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui. Aurélien est aux platines. Évidemment, comme d'habitude, il y aura des recettes de cuisine. On passera un coup de fil à un caviste du Tarn-et-Garonne, tiens, pour savoir si les vins des coteaux du Quercy sont en bonne place dans sa cave. On aura...
On va parler d'un magazine qui s'appelle Silence.
Voilà.
Alors
Silence.
Voilà, c'est fait.
C'est un très beau magazine, des recettes de cuisine, bien
oui.
sûr. Et puis, du jazz, Georges.
Ah. C'est ça ?
Mais, bien sûr, du jazz. Ce soir, j'ai choisi Ben Webster, un des saxophonistes de l'histoire du jazz.
Mais c'est pas avec du jazz qu'on commence tout de suite. On commence en musique.
On part au Brésil, là, avec de la jungle brésilienne, figurez-vous.
Ça existe.
Pour nous mettre, mais oui.
De la jungle brésilienne.
De bonne humeur.
Oh, bravo, c'est parti. C'est Qu'est-ce qu'on déguste. Et Catherine Tournaire vient d'ouvrir la première bouteille que nous allons déguster. À tout de suite, c'est Qu'est-ce qu'on déguste.
Il
y en a plus.
Ah, il faut en parler.
Deux ans.
direction Brésil pour nous mettre un peu de chaleur avec Marcelinho, le morceau Refazanda.
Toto du Quercy, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est où, c'est combien de gens? C'est sur deux départements, le Lot et le Tarn-et-Garonne, 38 communes concernées, 54 viticulteurs répartis en une cave coopérative, quelque chose qui est très intéressant, un lycée agricole, on en parlera tout à l'heure, et 20 chais particuliers, c'est-à-dire 20 vignerons qui vendent, qui vinifient, qui récoltent, qui vendangent et qui vinifient chez eux. Grosso modo, ça s'étend de Caussade aux portes de Cahors, donc du sud au nord, et depuis la Roque aux portes du Lot-et-Garonne d'est en ouest. Les premières vignes sont plantées par les Romains durant l'Antiquité, donc c'est pas un vignoble récent. Les nombreuses abbayes agrandissent le vignoble à partir du Xe siècle pour augmenter la production. Malheureusement, en 1876, le phylloxéra il détruit tout le vignoble. Il est ensuite lentement réhabilité par les viticulteurs. Et malheureusement encore, de nombreuses vignes sont abandonnées après la guerre de 1914-1918, puisque bon, là, les vignerons, ils ont déquillé dans les tranchées. Et puis, encore le gel de 1956 qui réduit encore les surfaces cultivées. Donc, on se demande comment il y a encore de la vigne là. Mais, les viticulteurs replantent des vignes dans les années 70 pour relancer la production. Donc, c'était quand même un critère de qualité. Le vin devait être bon. Afin de garantir l'origine de leur vin, ces viticulteurs obtiennent la création d'appellations aux critères de plus en plus stricts, donc vin de pays des coteaux du Quercy en 1976, AOVDQS, donc appellation d'origine vin de qualité supérieure coteaux du Quercy en 2000, et la consécration en 2011, donc l'année dernière, une AOC, appellation d'origine contrôlée, coteaux du Quercy. Il y a des vins rouges et des vins rosés, il n'y a pas de blanc en AOC.
Hein?
Non.
Bon, je n'ai pas dit de bêtises.
Non.
Donc le sol des terroirs, c'est argilo-calcaire, filtrant et aéré, nous dit le site internet de l'AOC des coteaux du Quercy, qui est très chantant. Le climat est partagé, donc influence de l'Atlantique, de la Méditerranée. On nous parle du chant des cigales, qui ne manque pas de rappeler la chaleur de l'été et le côté méridional. Et le caractère des vins des coteaux du Quercy tient cette nature au tempérament affirmé. Les cépages de base, c'est le Cabernet Franc, mais aussi du Malbec. Et alors, peut-être une compétition avec le Cahors, parce que c'est limite avec le Cahors. Est-ce qu'il y a du Malbec dans les vins des coteaux du Quercy? Il y a du Merlot, du Tanat et accessoirement du Gamay. En général, ce sont des vins. On a quand même pas mal de représentants ici sur la table, bio, pas bio. On verra tout à l'heure s'il y avait un bio historique, Bernard Lafage, et Bernard Bouissot du domaine de Lafage. Pardon, on l'appelle toujours Bernard Lafage, mais bon, voilà, Bernard Bouissot. Vous nous avez dit qu'il y en avait d'autres. On va peut-être en parler. L'AOC se porte bien.
L'AOC se porte pour le mieux qu'il peut se porter avec les producteurs qui font confiance à l'avenir. Et donc, le plus difficile étant d'assurer le renouvellement. Mais on espère que l'obtention de l'AOC motivera et incitera les reprises d'exploitation et le développement de l'existant.
Donc, on va trinquer.
Santé.
Là aussi.
Monsieur le Président,
à la vôtre.
Je crois que la dernière fois qu'on vous avait reçu, Monsieur le Président, c'était pas AOC encore, c'était VDQS, c'était le syndicat de défense des vins de qualité supérieure. Non, c'était ça, hein, VDQS.
Oui, en 2008, ouais. On était en démarche, accession.
Ça a été long, hein, cette démarche.
Mais la démarche est longue, c'est un long parcours de négociation et d'adaptation. Qui n'est pas le fait des viticulteurs, mais qui est le fait de l'INAO et d'un...
L'INAO, c'est l'Institut national
des appellations d'origine.
Voilà.
Qui assure le suivi et le passage obligé de tout produit sous signe officiel de qualité au niveau français.
Parce qu'il y a 20 ans, vous étiez 22 pays encore.
C'est bien ça.
76, oui, le 20 pays.
Le basculement, c'était donc en 99, décembre 99, nous avons passé à AOVDQS.
Et est-ce que tout le monde est satisfait de ça? Est-ce qu'en route, il y a des vignerons des coteaux du Quercy qui sont pas satisfaits de cette histoire-là, par exemple?
Bon, je pense que le terme satisfait n'est pas peut-être un terme approprié. Disons que dans la démarche commerciale de certains viticulteurs, il y a la nécessité de s'adapter au marché. Et donc, à l'intérieur de la segmentation, les produits qu'ils sentent pas, disons, aptes à revendiquer l'appellation sont des fois déclassés et vendus en 20 indications géographiques, voire en IGP, 20 indications géographiques protégées, qui est la famille en dessous des appellations d'origine.
Ils sont pas vendus en gasoil.
Ils sont pas vendus en gasoil.
Non, en vin quand même.
Et donc, ils sont vendus en vin. Et donc, effectivement, donc, toutes les surfaces cultivées en vigne sur l'aire d'appellation ne sont pas forcément revendiqués en appellation d'origine contrôlée.
Il y a une limite pour l'AOC, il y a un rendement maximum.
Il y a un rendement maximum qui est donc dans notre cahier des charges de 55 hectolitres par hectare, avec une négociation annuelle pour demander un peu plus éventuellement.
Et avec 55 hectolitres à l'hectare,
on fait combien de col?
5 500 litres, donc on doit faire à peu près quoi, 7 000 bouteilles.
À plus près. Ramener à la bouteille, oui, mais oui. C'est, en réalité, il y a des ventes en bib et des ventes de sous-dose.
D'accord. Est-ce que c'est viable pour un vigneron? Est-ce que, un vigneron qui a un hectare et qui fait 7500 bouteilles, est-ce qu'il peut vivre de ça? Ou alors, chez vous, c'est plutôt de la polyculture et que la vigne est un plus.
De questions. Donc, il y a systématiquement, historiquement, dans notre aire d'appellation de la polyculture, les exploitations ne sont pas spécialisées viticoles. À l'exception de deux, je pense. Et donc, mais ça tient à l'histoire plus qu'à la notion de revenu à l'hectare. Puisque vous parlez du produit à l'hectare. Le produit à l'hectare, effectivement, c'est des hectolitres ou des litres multipliés par un prix de vente. Et donc là, la fourchette est assez grande. Suivant que on se situe chez des producteurs de raisins livrant à coopérative ou à un vinificateur. Et le producteur de raisins, vinifiant et mettant en marché lui-même.
Donc là, ce week-end, on va pouvoir aller dans les chais, chez les vignerons, à la cave aussi, à la cave coopérative. On va pouvoir aller voir les gens et goûter et aller voir le vigneron.
On va en parler, mais plus tard, parce que là, c'est l'heure de la chronique jazz de Georges.
Jason. Alors ce soir, je vous parle de Ben Wesser. Ben Wesser est un des quatre grands saxophonistes qui ont traversé le 20e siècle. Il est né à Kansas City en 1909 et est décédé à Amsterdam en 1973. Il commence par étudier le violon, puis le piano, et débute comme pianiste dans l'orchestre de Russie Nelson, où un saxophoniste, Ben Johnson, lui donne ses premières leçons de saxo, qui finalement, après, il n'abandonnera pas. Il a joué dans les orchestres de Benny Moten, Andy Kirk, Fletcher Anderson, Casper Calloway, Duke Ellington et récemment dans le dernier orchestre, celui de Count Basie. Comme tous les musiciens middle jazz, Ben Wesser est avant tout un amoureux de la mélodie. Son discours plein de tendresse dans les ballades peut devenir violemment fougueux sur les tempos rapides. Son phrasé découpé en séquences courtes, séparé par de longs temps de repos, se termine souvent par une note puissante et vibrée. Plus soufflée que jouée, c'est ce que l'on écoute en fond sonore. En quelque sorte, un procédé dont il usera souvent et parfois abusera. Mais c'est ce son que les femmes aiment bien, ce son de saxophone dans lequel on souffle. Maintenant, on va passer sur le premier morceau, le titre que j'ai choisi pour commenter cette chronique. C'est « You Love Is Aware ».
Your love is aware. Vous écoutez CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste? Et au passage, là, juste sur le début, parce qu'on parle toujours traditionnellement un petit peu sur le jazz, est-ce que Catherine pourrait nous expliquer quel est le premier vin qu'on est en train de déguster?
Alors, en fait, c'est le vin du
C'est chez l'Artigue, ça.
Jean-Claude
de l'Artigue, le domaine de Guillot, qui est à Montalzin.
Mais là, il dort 2012.
Très bon. Voilà.
Présentez-le-nous.
Donc, c'est un vin qui est sur argilo-calcaire, plus argilo que calcaire d'ailleurs. C'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui fait de l'éclaircissage manuel, c'est-à-dire qui tombe des grappes pour garder les meilleures grappes afin d'avoir un produit au top. Il n'est pas le seul, bien sûr, hein, pratiquement de par la culture des chasselatiers qui était déjà sur le secteur, pratiquement tous les viticulteurs font ce type de culture.
Mais Jean Claude Artigue en plus, c'est un ténueux parce que quand il a pas de médaille d'or, il râle.
Ah, ça c'est sûr, hein. Parce
il
râle.
Ça l'a aperçu, ça l'a aperçu.
Ah oui, je connais Jean Claude. Il râle comme
ça. Et on voit la santé de Jean Claude Artigue. Allez, allez, hop. Santé, Jean Claude.
Pour démarrer.
C'est un peu la typicité quand même.
J'ai eu des vins des quartiers.
Non, c'est structuré, c'est.
Enregistrement public au club live de Montmartre à Copenhague avec Ben Wasser, saxo ténor.
Alors, Catherine Tourner, technicienne du syndicat des vins des coteaux du Quercy. C'est ça, c'est ça qui a écrit sur votre fiche de paye?
Non, pas du tout. En fait, je suis technicienne à la chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne.
D'accord.
Basée à Montauban. Et une partie de mon travail est au coteau du Quercy. Mais d'accord. Il faut savoir que je m'occupe aussi des coteaux et terrasses de Montauban, de la ville Dieu.
De tous les vins du Tarn-et-Garonne,
non,
en fait.
Non. Il manque le Brulois, il manque Saint-Sardos, il manque Fronton.
Ils veulent
c'est
pas
mes
vous,
collègues. Voilà, on partage les tâches. Et de plus en plus, je m'occupe aussi de la promotion des vins du Tarn-et-Garonne par le biais de la Fédération des vins du Tarn-et-Garonne.
D'accord.
Voilà.
Alors, en quoi ça consiste en... C'est quoi le métier de technicienne?
Eh bien, en fait, le métier de technicien, il se décompose, en deux grandes parties, à savoir... parce qu'on est technicien viticulture œnologie. Donc, on a une partie de conseil en œnologie, c'est-à-dire que c'est service payant. Les gens passent un contrat pour avoir nos conseils durant toute la vinification, durant l'élevage, on passe à l'assemblage, on donne nos conseils.
Est-ce qu'il vous arrive de faire le vin du début à la fin avec un vigneron qui vous écouterait les yeux fermés?
Oui, tout
donc
à fait.
Vous êtes parfois, quand on boit certains vins des coteaux du Quercy, on boit un vin que vous avez fait de A à Z.
Alors, pas fait, on a donné les conseils.
Oui.
Voilà. Par contre, l'autre partie, et moi qui me prends de plus en plus de temps, parce que les conseils en œnologie sont... On a redispatché nos postes entre nos collègues. Et moi, je ne fais plus de conseil en œnologie. Par contre, je fais beaucoup d'administratifs auprès des syndicats et des ODG, c'est-à-dire l'organisme de défense et de gestion des appellations.
D'accord.
Voilà, avec une spécialisation dans tout ce qui est législation.
Eh ben, à dire, ça paraît vachement moins rigolo que d'être conseil en œnologie. Je me trompe ou...
Eh ben, disons que... c'est pas évident. C'est pas évident, mais ce que je voulais dire, moi, aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais dire, surtout, c'est que...
Allez-y, parce que pendant ce temps, moi, je mange du pâté.
Au syndicat des coteaux du Quercy, dès que la profession a pris l'orientation de l'appellation, on a mis en place, justement, des conseils de l'accompagnement de viticulteurs en vue justement de ceux qui nous attendaient, de ceux qui les attendaient. Donc, on a fait beaucoup de conseils, d'accompagnement en vue de tous les contrôles qu'il y a.
Une démarche qualité.
Parce qu'en fait, dans la viticulture, il y a une administration très très lourde chez tous les opérateurs, puisqu'en fait, on est des collecteurs d'impôts au travers des droits de circulation. Et donc, cet aspect-là est très, très, une exigence de suivi de traçabilité et de comptabilité matière qui est très lourd. Et donc, Cathy accompagne dans toute cette problématique de comptabilité matière les viticulteurs qui le souhaitent.
D'accord.
Ouais. Donc, en fait, comptabilité matière, c'est du sec ou c'est du liquide?
Non, c'est toujours du liquide.
C'est du liquide.
J'imagine que ça soulage beaucoup, du coup, les viticulteurs. Donc, c'était pas le...
Ça les rassure surtout. Ouais.
Disons, ça crée un environnement de point d'appui par rapport à la réglementation qui évolue tous les ans, qui change tous les ans, pour savoir que le viticulteur, il est toujours dans le bon créneau, dans les bons respects des cahiers des charges et de la réglementation fiscale.
Et donc, lui, son boulot, c'est de faire du bon vin, le viticulteur, et le syndicat, lui, s'occupe de la paperasserie et des emmerdements.
Le syndicat, il manage l'ensemble, et donc le viticulteur fait du bon vin, mais on a besoin des viticulteurs pour exister. Voilà. Indispensable.
Par contre, juste un petit truc, c'est que, en fait, une appellation d'origine contrôlée, ça reflète quand même un produit de qualité, de traçabilité. C'est très important, et une typicité.
Ah ben ça, il faut. On va continuer d'en parler. Il est bien poivré.
Pendant que tu manges du pâté, bravo.
Je suis compris, je suis en plus de mon verre élevé.
Mais c'est quand même une idée de Rémi, cette idée de Silence, qui est une revue écolo, alternative et contre la violence, qui a de la bouteille, puisqu'ils sortent pour décembre 2012 leur numéro 407. Et grâce à la lecture de ce bon journal, je me suis posé la question qui ne m'avait jamais effleuré pour l'instant. Quel est l'impact écolo du surf sur Internet? Et oui, Pascal, c'est une grande question. Quelles sont les conséquences sur la nature des heures passées sur Facebook, Twitter ou sites moins avouables? Les rédacteurs de Silence savent que tôt ou tard, il faudra se calmer sur l'usage du web. Je sais, ça t'arrange pas trop, Pascal, mais bon. Car la crise énergétique est là et ça va pas s'améliorer. Et en parallèle, l'usage d'Internet s'amplifie de jour en jour. Il y a de plus en plus d'applications, on utilise les smartphones, il y a l'usage de la vidéo qui se répand aussi. Et les infrastructures réseau et la bande passante augmentent de façon exponentielle. On estime que d'ici 2016, le trafic mondial sera multiplié par 4 quand même. Donc derrière, il y a tout un tas d'infrastructures qui vont grossir, donc consommer de l'énergie. Les gars de Silence ont donc décidé de se passer d'Internet pour concevoir ce dernier numéro, et à aucun moment ils ont utilisé le World Wide Web. Ils sont même allés jusqu'à rechercher des coordonnées de personnes sur des annuaires à la poste, à l'ancienne. L'infini.
Il y en a plus des annuaires à la poste.
Il y a les annuaires de tous les départements français. Tout le monde n'a pas accès à Internet.
Je sais, oui.
Autre exemple, au lieu de s'envoyer des mails avec pièces jointes, ils ont communiqué entre eux en s'envoyant des clés USB sous pli postaux. Donc là aussi, perte de temps. Ils se sont interdits donc la recherche d'images sur Internet. Là aussi, ça s'est fait par courrier. Et le verdict est tombé, ça a quand même été laborieux. Il est dur de se passer de ce sacré web. Ils ont galéré. Mais ils ont quand même réussi à confectionner leur journal avec plus d'efforts, plus de temps perdu. Ils se sont posé la question, comme nous d'ailleurs, je pense, comment on faisait avant Internet? Et pourtant, il y a quelques années de cela, ça me passait très bien. Ça fonctionnait, on faisait.
Il y a 10 ans, il n'y avait pas Internet.
Donc, il faut se poser la question de notre usage d'Internet. Peut-être l'utiliser vraiment juste à fait utile, arrêter de perdre du temps. D'ailleurs, il y a des démarches, là aussi, qui sont réalisées par des entreprises, comme Canon, par exemple, qui a décidé d'instaurer pour l'ensemble de son personnel une journée sans email par semaine. Interdiction, donc, parce qu'on s'aperçoit qu'en moyenne, 33 mails par jour sont lus par les membres des entreprises en France. Ça semble beaucoup, ça semble être une grosse perte de temps. Donc il est peut-être temps de rationaliser cet usage d'Internet. Ça, c'est dans ce bon numéro de Silence qui est en kiosque.
Mais est-ce qu'on le trouve en ligne, Silence? Ou alors ils ont le site web, ou alors c'est que du papier?
Non, mais là, c'est pas... Pour un seul numéro, ils ont décidé de se passer d'Internet. Sinon, tu as un site web et d'habitude, ils utilisent. Mais ils ont voulu tenter l'expérience.
Et le papier, il est recyclé?
Le papier est recyclé, bien sûr. C'est
bon. C'est vraiment une revue alternative.
C'est vraiment
découvert le mois dernier. Il y a effectivement le modèle PDF qui est en ligne. Il y a un site Internet qui est super bien fait. Et c'est vraiment des gens, voilà, des passionnés. Voilà, passionnés.
Il n'y a pas de publicité dans le magazine,
non.
Etc.
C'est assez fort comme journal. Ouais. Ouais. On le découvrira à chaque sortie, puisqu'on a passé un partenariat tous les mois.
Ça s'appelle Silence.
Merci, Christophe. Alors, attends, on est plutôt pas mal là.
On attaque le vin du président.
Oh, bon, alors dites donc. Le vin du président.
C'est le vin du président.
Bon, alors. On est sur le vin du président. On a le pâté de chez Fourquier. Et. Je sais pas, mais on va voir ça après la pause.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous. Un incendie s'est déclaré hier en début de soirée dans un appartement du centre-ville de Villefranche-de-Rouergue. Le feu avait pris dans la chambre du logement. Épaulés par leurs collègues de Rieux-Pérou et de Montbazin, les pompiers villefranchois sont rapidement venus à bout du sinistre, mais les dégâts sont importants. 17 personnes ont dû être relogées. Les raisons de cet incendie sont encore indéterminées. Il volait les chéquiers et les falsifiait. Sa cible, les personnes âgées. Un homme originaire de Sept-Fonds a été condamné à 15 mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Montauban. Il s'agit de sa 31e condamnation. Son épouse, jugée complice dans ce vol, récolte 8 mois avec sursis. Deux amendes pour le complexe de loisirs de Cap Découverte à côté de Carmaux dans le Tarn. Une de 1000 euros, l'autre de 3000. Deux personnes avaient porté plainte contre la société suite à un accident de tyrolienne pendant l'été 2010. L'une d'elles, un père de famille, avait percuté un chariot tracteur pendant une descente en tyrolienne avec ses enfants à cause d'une fausse manœuvre d'un saisonnier. Le gérant de la société a comparu devant le tribunal pour répondre de blessures involontaires, mais aussi pour l'embauche d'un travailleur sans formation. Un incident qui a servi de leçon pour le site Cap Découverte, qui a depuis mis en place des formations pour tout le personnel par le biais d'un organisme agréé. À Montauban, le Forum départemental des droits de l'enfant bat son plein au centre de loisirs de Ramiéroux. L'objectif de cette manifestation est de promouvoir le texte de la Convention internationale des droits de l'enfant sous une approche ludique et éducative, et ce à travers des ateliers, des jeux et des débats. Le forum a commencé hier, il se terminera ce soir. Au total, pas moins de 800 élèves de primaire y auront participé. Et puis l'ancien rugbyman Vincent Moscato n'est jamais longtemps absent de Gaillac. Il revient dans le Tarn ce week-end pour recevoir la médaille de la ville. Séquence solennelle donc demain vers 18h30 à la mairie où Michel Rieux lui remettra la fameuse récompense. Et dimanche, Vincent Moscato donnera le coup d'envoi du match de Fédéral 2. Gaillac contre Thuir, match prévu à 15h. Excellente fin de journée avec CFM.
CFM à Moissac. 90.7. 90.7.
Vous êtes en Tarn-et-Garonne. Tous vos amis sont chez vous pour faire la fête. Il n'appartient qu'à vous que tous rentrent en vie. Ne laissez pas un proche qui a bu prendre le volant.
En France, plus d'un accident mortel sur 3 est dû à l'alcool. Chez nous, en Tarn-et-Garonne, l'alcool est responsable de 50% des tués en 2011. À tout âge, soyez responsable pour vos amis et pour vous-même. Contrôlez votre taux d'alcoolémie à l'éthylotest. Ne faisons pas des chiffres une fatalité. La sécurité routière, tous responsables.
À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, la ville de Montauban organise du 20 au 27 novembre la Semaine de l'enfant. Flash mob sur l'esplanade des fontaines, forum des droits de l'enfant, journée porte ouverte au pôle petite enfance. De nombreux ateliers et animations vous sont proposés tout au long de cette semaine. Plus de renseignements sur www.montauban.com. Montauban, le goût de l'avenir. Lettres d'automne s'arrête à Molière le mardi 27 novembre pour une lecture musicale de et par Jean-Claude Mourleva, accompagné de la violoncelliste Marie-Madeleine Mille, en présence de Jeanne Benhammer, invitée d'honneur du festival littéraire Lettres d'automne. Animations libres et gratuites à 20h30, salle de la Pyramide. Renseignements, communauté commune Quercy-Caussadet, 05 63 93 28 66.
Ça y est, elle est là. J'y vais.
Et tu vas où, là?
Je vais chez Volkswagen JPR Automobile découvrir la nouvelle Golf 7 avec ses équipements de folie.
Ah, je viens avec toi.
Ok, tu vas voir. Elle est formidable, la nouvelle Golf 7. Économe, une super ligne, et elle comprend même quand je suis fatigué. Ah, une vraie perle.
Ouais, bah c'est bon, n'en fais pas trop quand même.
Et oui, depuis le 16 novembre, la Golf 7 vous attend chez votre concessionnaire Volkswagen JPR Automobile, zone Alba Sud à Montauban et à Cahors, route de Toulouse.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Et avec cette très belle rétro-nasale sur ma droite de Pascal Olivier, nous reprenons le cours de cette émission. Une rétro-nasale réalisée avec le vin de Monsieur le Président, du syndicat de défense de l'AOC des vins des Coteaux du Quercy. J'ai nommé Monsieur Vignal, qui est notre invité ce soir. Il y a également parmi nous Catherine Tourner, qui est la technicienne pour la chambre d'agriculture et qui est détachée du coup sur la cave des vins des Coteaux du Quercy. On a également avec nous Virginie Banzi, à qui on va donner la parole dans quelques instants, qui est l'animatrice de ce syndicat et qui va nous parler de ses journées portes ouvertes qui ont lieu durant tout le week-end. Quelques 25, 26, 27, je ne sais pas combien exactement,
13, 30 13 ouais. Vignerons qui ouvrent leurs portes.
Comment ça, que 13 vignerons?
Et
sur
oui,
le nombre que vous êtes
13 vignerons, voilà.
Bon.
Oui, en fait, on s'y est pris un peu tard et il y avait des gens qui étaient déjà partis dans des salons et... Et de ce fait-là, malheureusement.
Il reste les meilleurs.
Voilà.
Exactement.
C'est vrai.
On va dire ça.
Il reste les meilleurs. C'est comme à l'émission Qu'est-ce qu'on déguste? Il reste toujours que les meilleurs.
Mais oui.
Il y a donc Christophe, il y a donc Georges, il y a donc Pascal.
Merci pour Gaël.
Et on fait, et on fait un petit coucou à Gaël. Qui doit bien sûr nous écouter. C'est un joke, Gaël. C'est un joke. Notre spécialiste bande dessinée n'étant pas là, nous pouvons poursuivre cette émission en écoutant.
On reste dans le jazz. J'ai décidé de concurrencer Georges. On écoute Willy Bobo avec le morceau Liza. Et oui, un morceau
c'est
de
un
Bobo.
Grand clin d'œil, voilà. Ça.
Je peux avoir d'autres vins de Monsieur le Président.
Après, on va passer.
Mais avant de passer à après, je préfère encore un peu. J'ai le droit? Pas trop, Monsieur le Président. Hop, hop, hop. Vous avez envie de me saouler, j'ai l'impression.
Il n'y a pas trop, non.
Vous nous en avez pas parlé de celui-là.
Alors il va la parler.
Parlez-nous du vin de Monsieur Vignal. Mmh. Alors le Saint-Germain.
Bon, alors en fait, tout à l'heure, Pascal me disait, c'est un vin plus aérien que le domaine de Guillot. En fait, ça réside dans l'assemblage des cépages. Il ne faut pas oublier que le Cabernet Franc doit être compris entre 40 et 60% au sol. Merlot Côte Tanat 25% et Gamay
Maxi
et Gamay 20%. Donc selon que l'on met plus de Tanat ou un peu plus de Merlot, on a des différences. On aura des vins un peu plus tanniques, peut-être avec celui qui a un peu plus de Tanat et beaucoup plus gras, qui remplit bien la bouche, avec celui où il y aura un peu plus de merlot.
Il y a moins de tanates dans le vôtre, Monsieur Vignal, que dans celui de l'Artigue, non?
Je pense que oui, mais je ne connais pas l'assemblage des vignerons. Je laisse chacun décider en âme et conscience de leur vinification.
C'est leur secret.
On est à 7 minutes. On n'est pas sur la millésime aussi.
On n'est pas sur la millésime aussi. Alors qu'on a la médaille d'or qui arrive derrière.
Il les paye.
Oh là là.
Il est au téléphone.
À New York pendant les années 70, c'est un batteur et un percussionniste donc spécialisé de le jazz latino, comme on vient de l'attendre sur ce morceau Liza, Willy Bobo.
You need a real man. Virginie Banzi, animatrice des journées portes ouvertes, entre autres. En ce moment, là, c'est ça. Hein. Votre gros boulot, c'est les journées portes ouvertes. Donc, voilà. 13 vignerons, c'est ça?
Oui, 13 vignerons donc, ouvrent leurs portes ce week-end. Donc, entre samedi et dimanche. Je vous en cite
L'idée,
de faire connaître notre toute nouvelle jeune AOC Coteau du Quercy.
Parce que ça se faisait pas des journées portes ouvertes en plein noir.
C'est la première fois. Voilà.
Non, vous allez faire comme les frères Jacques, vous allez le faire découvrir pendant 20 ans. Là,
vous n'allez pas nous faire faire le coup du vin nouveau chez vous.
Dernier trimestre. C'est l'idée. C'est qu'on n'avait pas d'animation sur le dernier trimestre. Et on a tenté l'expérience.
C'est peut-être pas mal, ça.
Mais vous n'allez pas nous faire le coup du vin nouveau?
Non, c'est pas le coup du vin nouveau, c'est les vignerons ouvrent leurs portes. Voilà.
Attention, il n'y a pas de vin nouveau.
On en parle.
Voilà. Eh oui.
On ne fait pas référence au vin nouveau.
Non, mais d'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on peut goûter à cette période le vin qui pétille encore dans les cuves ou un truc comme ça? Ça existe, ça?
Ah oui.
Je fantasme, là.
Il y a des clients qui viennent et qui apprécient. Mais de là à le mettre en marché, c'est.
Non, mais c'est pour le fun, comme ça,
pour voir.
Ça existe, oui.
Ça pétille encore, ça fait des bulles.
En fait, c'est du vin qui n'est pas du vin, qui n'est pas encore du vin.
Mais il y a une demande.
Mais non, Georges.
Ah, mais des châtaignes, c'est pas trop vache.
Donc, 13. Ça porte pas bonheur, hein, ça, 13. Faites gaffe quand même.
Voilà. Mais non, on n'est pas superstitieux au Coteau du Quercy.
Faut pas être superstitieux, ça porte malheur.
Voilà.
Y en a autant en Tarn-et-Garonne que dans l'autre qui ouvrent leurs portes, là. Allez, on en cite la moitié, puis on recitera l'autre moitié après.
Allez, je vais vous citer les Tarn-et-Garonnais, alors.
Allez.
Dans le Tarn-et-Garonne, il y a le domaine de Guillot qui ouvre ses portes samedi et dimanche. La cave des vignerons du Quercy, samedi. Le domaine de Gabachou, samedi et dimanche. Le domaine de la Fage, uniquement dimanche.
Et au domaine de la Fage, il y a plein de trucs bio en même temps.
Voilà,
hein,
dans le domaine de la Fage, il y a un marché bio, une animation musicale. Au domaine de Gabachou, il y a une fabrication de pastis à 16h le samedi 24.
Du pastis.
Voilà.
Le gâteau.
Hein.
Oh.
Non. Voilà. Voilà. Le domaine de Mayac à Montclar de Quercy ouvre ses portes samedi et dimanche. Nous avons aussi donc le domaine de Mazuc à Puy-la-Roque qui ouvre ses portes samedi avec une démonstration de sculpture à la tronçonneuse à partir de 14h. Voilà pour les Tarn-et-Garonnais.
C'est bien ça, la sculpture à la tronçonneuse, c'est bio, c'est...
On fait pas de bruit, c'est relax.
C'est relax.
C'est pas Eric Carle qui fait ça.
Si,
si, il fait ça à tronçonneuse.
Non, c'est pas lui, c'est pas lui-même.
Domaine de Mayac, c'est du vin chaud, je crois.
Oui, domaine de Mayac offre du vin chaud. Et ensuite, au domaine de Guillot, il y a aussi un marché à la ferme avec, si je ne m'abuse, un producteur de produits du terroir et du fromage.
C'est qui déjà le domaine de Guillot, Pascal?
C'est Jean-Claude Lartigue.
Comment ça, tu l'aurais oublié?
Ça me dit quelque chose.
Il va téléphoner.
C'est sûr qu'il va appeler.
Non, c'est vrai qu'il y a deux vignerons du Quercy qu'on évoque assez régulièrement en fait sur cette antenne. C'est Jean-Claude Lartigue parce qu'on aime bien le taquiner. Et puis
parce qu'il démarre au quart de tour.
Et pour ça. Et puis domaine de la Fage,
Bernard
Bouissou parce qu'on le croise très régulièrement. Alors moi j'aimais bien dire avec ses moustaches, mais ça y est, c'est fini. Il a même plus les moustaches. C'était un peu notre comment il s'appelle. Le moustachu avec le béret.
Capitaine Haddock.
Mais non.
Le barbu.
Mais non, des verts, des écolos. Oui.
José Bové.
C'était notre José Bové local. Oui.
Ceci dit, il ne faut pas oublier quand même les autres. Hein.
Ah ben oui.
Bicamas.
Non mais, qui c'est qu'on a reçu ici et qui avait été.
Non, c'est Michael Reynal.
C'est Michael Reynal qui avait été élu meilleur rosé du monde.
Oui,
c'est
ça. Vice. Champion du monde.
Second.
Second. Mais alors, on nous aurait trompé, Pascal Olivier.
Non, absolument pas. Ils sont tous meilleurs rosés du monde.
Il y a aussi Didier de Bail, qui ne fait pas ses portes ouvertes, mais qui est producteur. Il y a Opencht.
Oui, Mayac. Les a reçus aussi.
Mellac.
Mayac.
Domaine de Mayac. Qui est en bio.
Opencht.
Opencht.
Pas facile à dire ça.
Ulrich. Parce qu'on a des femmes en Quercy aussi.
Ouais, et quelles femmes. Spéciale dédicace à Ulrich, hein, qu'on embrasse au passage. finalement, on les connaît tous, ces vignerons.
Presque, oui.
Hein, ils ont la sympathie, quoi. Ils ont le contact facile.
Oui, et puis il y a la fête des vins des coteaux du Quercy chaque année, une année à Montpezat de Quercy, une année dans le Lot, qui est vraiment une grande fête où on voit tous les vignerons.
Dois-je vous rappeler, mes chers amis, que je fais partie.
Ah oui, t'es introduit.
Tu as été
introduit une certaine année.
J'ai été intronisé, nous dirons. J'ai été un pétran.
Voilà. La grosse médaille.
Oui, j'ai la grosse médaille.
C'était un Montpezat de Quercy pour la fête du vin.
Oui. Oui, oui. Voilà. Et il devait y avoir Dick Rivers avec moi. Je vais être dans la même catégorie que Dick Rivers.
Véridique.
Il était. Et alors, vous avez réussi à l'avoir, Dick Rivers, à force ? Parce qu'il est dans le coin. Dick, si tu m'entends, quand même, ça vaut le coup. Non, c'est vrai. Ah, c'est sympa. Un tout petit peu de jazz.
On écoute le saxophoniste Ben Wasser. Là, la première version du morceau que nous avons écouté, c'était pour avoir son son chaleureux.
Son. Oh, encore du pâté. Attends.
Le son où il utilise le souffle, là, on l'écoute dans un morceau beaucoup plus rapide, où il joue de façon plus classique. C'est plus fort et lourd.
Et quoi?
Fort.
Virginie, c'est quoi ce pâté là qu'on est en train de manger ?
C'est du pâté de foie.
Et ça vient d'où ? C'est quoi ?
C'est toujours pareil, la ferme, j'ai perdu son nom, je suis désolée.
Et c'est la ferme Pascal. Henri et Suzanne Fourquier, la ferme de la Grand Borde.
En fait, c'est le domaine de Gabachou qui revend leurs produits et donc voilà, quand on a su qu'on venait ici. Voilà, je suis venue.
On trouve ça au domaine de Gabachou, il y a une boutique.
Voilà, il y a une boutique, ils revendent de leurs produits.
Moi je suis à ça là. Qu'est-ce que c'est ?
C'est le baisser de Boissy.
Ah, le baisser de Boissy.
Voilà. Mais il faut que tu.
On est obligé de faire tourner. Ah, pardon. Allez-y, servez-vous, monsieur le président.
CFM.
Georges qui répond au téléphone au lieu de finir sa chronique et la bouche pleine. Allez.
Bon, l'enregistrement que nous écoutons, c'est un enregistrement public fait
en public.
Au Plumeau Marthe à Copenhague avec le Benoît Serre ténor saxophone, Kenny Drew piano, N.A. Chopé le célèbre bassiste. Et Alex Reed à la batterie.
Ah, mais alors, le club.
C'est un enregistrement de 1965.
Le club Montmartre, c'est pas à Montmartre, c'est à Copenhague.
À Copenhague.
Oh, mais je vois que Catherine est amatrice de jazz aussi. Non ? Me trompe, je.
Elle a déjà écouté.
J'ai surtout écouté.
Allô, monsieur Zimmermann ?
Oui, bonsoir à tous.
Salut, la cave Zimmermann, c'est à Cossa, dans le Tarn-et-Garonne. Oui, c'est la cave 20 sur 20. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il n'y a pas longtemps, avec Pascal Olivier, on se demandait si on n'allait pas venir enregistrer un Qu'est-ce qu'on déguste dans la cave à 20 sur 20 à Cossa, hein, Pascal ?
Oui.
Ah, ben, ce serait très intéressant de toute manière. Moi, je vous accueille avec grand plaisir.
Ben, rendez-vous est pris.
Ben voilà, rendez-vous est pris. Alors, on avait envie de te passer un coup de fil parce que on voulait savoir quelle place avaient dans ta cave les vins des coteaux du Quercy qu'on reçoit ce soir.
Ben en fait, très simple, hein, moi je suis au cœur de l'appellation, donc état à Cossa, je suis aux portes de l'appellation des vins des coteaux du Quercy. Donc les vins des coteaux du Quercy occupent une belle place au niveau de mon espace vin du sud-ouest, parce qu'ils sont en première ligne. En fait, on a des rosés magnifiques et des rouges assez sympas avec des élevages en cuve ou en fût de chêne. Il y en a pour tous les goûts.
Et alors, toi, en tant que professionnel, celui que tu préfères chez les coteaux du Quercy? Ah oui, non, mais je ne suis pas sympa.
Non, là, c'est pas sympa.
Comme ça. Je ne suis pas sympa. Hein. J'ai la technicienne à ma droite, le président à ma gauche. Alors, vas-y.
Et l'animatrice au milieu. Alors là, t'es foutu.
Je travaille depuis le début de la création de la cave, donc depuis mars 2005 avec Eric Carle qui est à Pularoc, domaine de Mazic, donc sur la cuvée, donc la cuvée traditionnelle et la cuvée fût. Et ensuite, on a référencé petit à petit donc d'autres vignerons. Donc on a domaine de la Fage, c'est Bernard Bouissou qui travaille en agriculture bio sur Montpezat-Quercy.
Biodynamie.
Voilà, exactement, oui. Donc, Bernard Bouissou, c'est un des précurseurs là en côté de Quercy qui a démarré à travailler en biodynamie sur Montpezat-Quercy il y a de ça déjà quelques années.
Alors, merci d'être avec nous, Laurent. À la cave 20 sur 20, on a décidé que maintenant qu'on allait appeler un caviste par semaine, hein Pascal.
Tout à fait. C'est
donc,
prévu.
Donc, on voudrait que tu nous donnes le vin de la semaine, celui que tu as envie de mettre en avant. Et c'est pas forcément un vin des coteaux du Quercy, d'accord? Tu n'es pas obligé, d'accord?
Hein? D'accord. Ça tombe bien parce que ce soir, j'ai une soirée dégustation en Bourgogne. Donc, j'ai 20 personnes à la cave ce soir qui me rejoignent à partir de 20h pour faire une belle dégustation sur le thème des vins de Bourgogne. Parce qu'en fait, tous les 15 jours, le vendredi soir, on aborde des thèmes viticoles, donc des régions viticoles bien, bien précises. Un jour, on fera peut-être une dégustation coteau du Quercy. Et donc ce soir, le thème, c'est la Bourgogne. Donc je vais vous parler des vins que je vais présenter ce soir. Donc on va démarrer avec un Chablis domaine Stéphane Moreau qui est sur le millésime 2009, donc terroir de Lyon. Ensuite, on va poursuivre avec un Pouilly Fuissé de Marc Valette, donc domaine Valette.
Un Pouilly Fuissé, on s'embête pas, oui. Ça revient cher, non, quand même, une soirée dégustation.
Ouais, on va venir, attends, on arrive là.
On va venir, oui.
Et ensuite, donc, on poursuit avec une sélection de rouges. Donc, on va goûter un Volnay premier cru Clos des Chênes de Michel Lafarge. Ensuite, un Pommard premier cru Pézerolles de Jean-Marc Boileau en 2004. Et un petit peu de côte chalonnaise avec un Mercuré de Michel Juillot en 2009. Et on termine somptueusement avec Nuit Saint-Georges, premier cru Les Corvées, 1999, du domaine Prieuré Roc. Donc un des grands domaines viticoles de la Bourgogne, c'est Jean-François Roc qui est un des actionnaires du domaine de la Romanée-Conti et donc il conduit son vignoble en agriculture bio depuis la nuit des temps.
Et Laurent, Catherine Tourner vient de dire on y va, on arrête l'émission, on arrive.
Hein, vous êtes tout à fait.
De place à vous proposer.
Bon, il reste rien qu'une bouteille là, ou un bouchon à sucer. Et ça, tu fais ça toutes les semaines.
Ça avec grand plaisir.
Tu fais ça toutes les semaines, dégustation.
Tous les 15 jours, le vendredi soir. Et on a un programme établi et le vendredi soir sur des thèmes définis à l'avance. On a un petit programme. Vous pouvez le consulter sur le site internet que je ne citerai pas parce que j'ai cité la dernière fois et je suis royalement planté.
Bien.
Vous rappelez.
Bon, en tout cas, on s'inscrit. Ça coûte combien une soirée dégustation? Est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'on peut venir en individuel ou est-ce qu'il vaut mieux prendre avoir un groupe de copains avec qui le faire? Comment tu marches?
Ah, vous pouvez le faire en groupe d'amis. C'est vrai que c'est convivial, mais sinon on fait des modules de 20 personnes, donc ça reste sur la convivialité. Et donc même si vous venez seul, il y a aucun problème. Hein, vous arrivez toujours à dialoguer avec une personne. Hein, voilà.
Eh ben merci Laurent Zimmermann, la cave 20 à 20 à Cossade
d'avoir été. 20 sur 20.
20 à, ouais, 20, 20 sur 20. 20. Ouais, non, mais tu sais, celle de Montauban, il faut que je l'appelle la cave bleu-blanc-rouge.
Ouais, vous dégustez quoi alors?
Ah, alors moi j'ai un domaine de la Fage dans mon verre, juste avant un BC de Boissy,
On a goûté le domaine Saint-Julien, Coteau du Quercy 2010 rouge, Jean-Claude Lartigue, pour ne pas le nommer, domaine de Guillot, qu'est-ce qu'on a encore?
Du Gabachou.
Laurent,
du
Gabachou. On va boire du Gabachou après. Laurent, comment il est Lartigue? Quand tu...
Lartigue, c'est un sacré numéro, lui.
Ils vont croire que tous les gens sont comme ça.
Non, il est adorable, il a un cœur énorme, mais il a une gueule comme un.
Allez, merci Laurent d'avoir été avec nous.
Merci Laurent.
À la prochaine.
Merci à vous. Bonne soirée.
Qui aime bien, châtie bien. Moi, j'aime beaucoup Jean-Claude Lartigue.
Qui bene à qui bene à Matt, bene castigat. Qui aime bien, châtie bien.
Puisque tu as la parole, le mot du jour, c'est quoi, Pascal Olivier?
Le mot de la semaine.
Le mot de la semaine, ouais.
On parle beaucoup de duxelles. C'est quoi une duxelle? Vous faites une duxelle pour aller avec votre
genre
de machin.
On en parle beaucoup. Hein, justement, on en parlait, toi et moi, Christophe.
Et vous saviez pas ce que c'est duxelle? Tu veux faire une petite duxelle ce soir?
C'est quoi une duxelle?
Eh ben, c'est un appareil aromatisé à base de champignons. Le nom vient du nom du marquis d'Uxelles, qui était un lieutenant général de Louis XIV et gouverneur de Chalon, auquel La Varenne, auteur du cuisinier François de 1650, dédié à la recette qu'il aurait inventée. Donc c'est quoi une duxelle? C'est un hachis de champignons rehaussé d'oignons, d'échalotes, d'ail, de persil, assaisonné de sel, poivre, noix muscade et parfois de paprika. C'est revenu à l'huile et mouillé avec du vin blanc et du jus de bœuf ou de veau. Et cet après, cet appareil sert à un grand nombre de préparations, beaucoup de viande, on peut mettre une duxelle avec un bon morceau de veau, avec beaucoup de poisson aussi, ça marche très bien, donc des champignons, alors vous pouvez prendre ce que l'on appelle couramment des champignons de Paris, mais on peut aller sur, on peut faire une duxelle de cèpe, c'est quand même
cèpe
girolle,
ou
d'orange, chose comme ça, donc revenu lentement avec des oignons, ail, persil, bien aromatisé, un bon verre de vin blanc, bien qu'il n'y ait pas de vin blanc dans la AOC Coteau du Quercy, et ça c'est redoutable, duxelle, c'est vraiment
ou
à mettre partout.
Moi, j'aime bien
quand même. Du rosé aussi.
Il dit, on parle beaucoup de duxelles. Personne n'a jamais entendu parler de ce mot. Personne ne l'utilise depuis le 14e siècle.
Mais parce que t'es pas cuisinier. Tu mouilles avec ce que t'as, ouais, tu peux mettre du vin blanc, normalement du vin blanc. Mais...
Monsieur Bouissou, je reprends un petit peu de votre vin que j'aime bien. Ouais. Est-ce qu'on peut trinquer à la santé des vignerons des coteaux du Quercy?
Un veau, une côte de veau, une duxelle de champignons.
Alors, on m'a vu. À quoi? Vous avez qu'à dire que je garde les bouteilles vers moi.
Rends les bouteilles. Elles sont en prêt.
Non. Heureusement, vous êtes là.
Virginie.
Oui, merci. Je suis là.
Les autres, ceux qui sont
dans le lot.
Dans le lot. Ouais.
Alors ceux qui sont dans le lot, il y a le chez Saint-Étienne à Saint-Paul-de-Loubressac qui est ouvert samedi.
Saint-Paul-de-Loubressac. Oh,
il veut y aller parce que ça c'est son bled favori. Voilà. Saint-Paul-de-Loubressac.
Non mais c'est beau quand même.
D'ailleurs, clin d'œil à Laurent Zimmermann parce qu'il habite là-bas.
C'est vrai.
À Saint-Paul-de-Loubressac.
Le domaine de Coquel à Flognac qui est ouvert sur les deux jours, samedi dimanche. Le domaine de Saint-Julien, donc chez notre très cher président, qui est ouvert samedi. Le domaine de Lacoste, qui est au lycée viticole du Montat, qui ouvre ses portes samedi. Le domaine de Lagarde à l'Abbatie de Marnac, également samedi. Ensuite, nous avons la treille de Lagarde à Montcuq, qui ouvre ses portes tout le week-end, samedi et dimanche. Et nous terminerons avec le domaine de la Réginerie à Mont-Lauzin, qui est ouvert dimanche.
Un mot, Catherine, s'il vous plaît, sur les vins qu'on est en train de déguster. Est-ce qu'ils sont si différents les uns que les autres? Quand vous travaillez pour l'un ou pour l'autre des vignerons des coteaux du Quercy, est-ce que vous cherchez justement à différencier un vin d'un autre? Comment ça se passe finalement? Parce que on est sur le même terroir. On est sur le même cépage, finalement c'est exactement les mêmes ingrédients. Moi, vous m'étonnez parce que vous seriez comme quelqu'un à qui on donne des œufs, de la farine et de l'eau, et un peu de sel, voilà. Et puis, et vous feriez des choses différentes à chaque fois.
Tout à fait. On fait pisser le terroir.
On le fait s'exprimer.
Oui, enfin, on fait pisser le terroir, comme ça, oui. Alors,
pisser, bien. C'est vraiment pour les veines sans IG.
Non,
un gros rendement. Non, en fait, il y a quand même le secret de chacun. Il faut le savoir. Chacun cultive différemment. Vous avez
ouais, mais avec les techniciens justement qui arrivent et qui disent comment il faut faire.
Oui, mais justement, c'est un savoir-faire. Ils ont chacun leur façon de travailler, de mener les vignes. Il y en a qui vont enherber, il y en a qui vont désherber, il y en a qui vont effeuiller, il y en a qui vont pas effeuiller, il y en a qui vont tailler haut, pré-tailler court. Chacun a leur petit secret.
On a intérêt à avoir une diversité à l'intérieur du même cahier des charges de l'appellation. C'est un atout que tous les vins ne soient pas identiques pour que chacun trouve son plaisir
chez eux. Et puis il y a la qualité des
vignerons. Exactement.
Il y a le travail des vignerons, il y a l'exposition des vignes, il y a le mode de conduite.
Et puis après,
il y a aussi... un ensemble de pratiques qui amène à avoir des produits différents avec le même cahier des charges.
Et puis la vinification aussi va être différente. Il y en a qui vont laisser macérer longtemps. D'autres réduire cette macération. Il y en a qui vont mettre un peu plus de gamay, moins de gamay. Et puis, comme dit Pascal, c'est vraiment la vinification, c'est vraiment là où s'exprime la personnalité du vigneron.
Voilà. Merci Catherine Tourner, vous partez pas, personne ne part, personne ne sort de cette
personne
pièce. Vous restez là, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite dans quelques minutes.
Info. CFM, les infos.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, le sommet européen qui s'achève sur un échec, les 27 n'ont pas trouvé d'accord sur le budget européen. 4 blessés graves et 1 mort dans une fusillade à Orlyville dans le Val-de-Marne. En sport, nous parlerons du foot avec un match de Ligue 1 ce soir, mais nous prendrons aussi des nouvelles du Vendée Globe et puis d'un autre marin qui lui rame au large de la Martinique. Aucun accord à Bruxelles. Le sommet européen extraordinaire s'est conclu sans que les dirigeants aient trouvé un consensus sur le budget de l'Union pour la période 2014-2020. Mais selon le président de l'Union, Herman Van Rompuy, un accord pourrait être trouvé début 2013. Le président français relativise également cet échec. François Hollande a tenu une conférence de presse à la sortie de ce sommet. On l'écoute.
Ce conseil a été utile et a correspondu à une étape. D'ailleurs, souhaitable pour chercher un accord sur une perspective budgétaire sur 7 ans, donc qui va engager les politiques européennes pour longtemps. Quand je regarde l'histoire des perspectives budgétaires précédentes, il y a toujours eu 2 conseils européens. Un premier est pour voir ce qui peut éventuellement les rapprocher, et puis un conseil européen conclusif. Nous n'avons pas échappé à cette logique-là.
À l'UMP, l'espoir d'une trêve après la proposition de médiation d'Alain Juppé hier soir. Les 2 candidats à l'élection à la présidence de l'UMP, Jean-François Copé et François Fillon, ont accepté de se rencontrer dimanche soir en présence du maire de Bordeaux. Mais ce dernier a posé des conditions qui n'ont pas toutes été acceptées par les copéistes. Il souhaite notamment que les membres de la commission de recours interne qui ont soutenu un des 2 candidats se dessaisissent. Une demande refusée par Jean-François Copé. Un homme est mort et 4 personnes ont été blessées grièvement par balle ce midi à Orlyville dans le Val-de-Marne. Ils se trouvaient devant et dans un bar au moment du déjeuner et ont été pris pour cible par 2 individus qui ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture. Le véhicule a été retrouvé brûlé 15 minutes plus tard dans une commune voisine. La trêve entre Israël et le Hamas mise à mal aujourd'hui. Un Palestinien a été tué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Premier mort depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Tel Aviv. Après 1 semaine de raids aériens de l'armée israélienne sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes depuis le territoire palestinien, le Hamas dénonce aujourd'hui une violation de la trêve et annonce qu'il va saisir le médiateur égyptien pour éviter que ces faits ne se reproduisent. L'Union européenne appelle le président égyptien à respecter le processus démocratique. Hier, Mohamed Morsi a annoncé un renforcement de ses pouvoirs. Il s'attribue notamment le pouvoir législatif, un accroissement des pouvoirs qualifié par l'opposition de dérive dictatoriale. Mohamed Morsi a lui assuré ses partisans que l'Égypte est sur la voie de la liberté et de la démocratie. En football, coup d'envoi de la 14e journée de Ligue 1 avec ce soir Saint-Étienne-Valenciennes à 20h45. Un duel d'outsiders. Du côté de la mer, il rame Charles Edrich, l'aventurier français de 54 ans. Il est parti début juillet de Saint-Pierre-et-Miquelon pour réaliser un aller-retour sur l'Atlantique à la rame et en solo, sans escale ni ravitaillement. C'est la dernière ligne droite puisqu'il est sur le point d'arriver en Martinique, mais les derniers jours sont parfois les plus redoutables. Charles Edrich craint une avarie proche de l'Avérivé. Romain Amalric l'a joint par téléphone.
Au départ d'une expédition, quelle qu'elle soit, je suis extrêmement détendu. Par contre, à l'arrivée, j'ai un peu plus de tension. Et là, par exemple, à l'instant où on se parle, normalement, toutes les difficultés sont passées. Donc, je suis un petit peu comme un joueur de tennis qui doit conclure. Je me dis qu'il m'arriverait quelque chose là, sur les 8 derniers jours. Bah, ça serait tellement, tellement rageant que ça me met un peu de tension, quoi. Pour l'instant, je suis quand même dans un état d'esprit où il faut que j'arrive. Et c'est quand même là-dessus où je suis quand même le plus concentré, sachant que il y aura de toute façon ma famille, il y aura le président du club des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis là, qui est mon partenaire. Maintenant, s'il y a beaucoup de monde, je serais très content. Moi.
Charles Edrich, qui a déjà passé 138 jours en mer, devrait arriver, si tout se passe bien, à Sainte-Anne en Martinique le samedi 1er décembre en fin de matinée. Et puisqu'on parle de navigation, un point sur le Vendée Globe, 14 skippers sont encore en course. 2 semaines après le départ de la 7e édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale. Et le marin de la semaine, c'est sans conteste le Breton Armel Lecléache qui mène la course depuis une semaine. Au dernier pointage, il était suivi de François Gaboire et Vincent Rioux.
CFM. Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man. Qu'est-ce qu'on déguste la suite? You need a sweet man. Alors pendant que les infos tourner et annoncer leur lot de mauvaises nouvelles. Nous étions sur le site internet cfmradio.fr, depuis lequel vous pouvez écouter Qu'est-ce qu'on déguste partout à travers le monde, hein, puisque je vous rappelle que en Mondovision, oui, on est en streaming hein, sur le site internet. Et donc on a une petite chatbox, vous savez, c'est un petit endroit en bas à droite du site internet où il y a marqué « On discute » avec un point d'interrogation, et là vous pouvez rentrer et venir chatter avec nous, c'est-à-dire chatter, messieurs, dames, pour vous qui avez 80 ans, ça veut dire écrire à la machine à écrire, et comme ça on peut se parler. Et donc on a quelqu'un qui s'appelle Invité3817, voilà, et qui nous dit simplement « Sacré Pascal », et qui reprend Pascal en lui disant que Bernard Lafage, du domaine de Buissou, ça le faisait beaucoup rire, voilà, voilà. Et que l'artigue est un peu épais et que ça a accroché aux dents. Non mais alors, parce que ça c'est la typicité, blague à part, c'est la typicité des vins des coteaux du Quercy, et c'est peut-être ce qui les rapproche, j'aimerais qu'on en parle peut-être avec vous monsieur le Président, et puis avec vous madame la technicienne,
du Cahors,
c'est-à-dire qu'il y a ce tanat, il y a cette accroche comme ça, alors ça vous plaît pas,
hein, pas les mêmes
cépages, ça me plaît pas du tout.
Et voilà, non c'est pas les mêmes cépages, mais il y a cette accroche tannique,
un petit... typicité des vins du Sud-Ouest,
ouais.
qui nous amène à nous ressembler beaucoup avec l'ensemble des vins du Sud-Ouest, avec plus ou moins de tanins suivant les assemblages, mais effectivement la structuration, c'est ce qui nous oppose ou nous compare difficilement avec les vins de Bourgogne, qui sont plutôt des vins aromatiques, voilà, et frais à bouche,
et léger.
alors que la particularité de l'ensemble des vins du Sud-Ouest, toute appellation confondue, peut-être certains un peu moins, c'est une forte structure et les tanins plus ou moins présents.
Oui, alors qu'est-ce qui vous voulez vraiment rien avoir à voir avec les vins du Cahors, parce que vous êtes pas loin quand même sur le terroir.
Wow. On a aucun point commun en fait.
Alors, explication s'il vous plaît, Catherine Tourner, s'il vous plaît. Dans le Cahors, on a quoi comme cépage dans l'assemblage et dans le et redites-nous comme ça dans la dans
Eh bien, on a du Malbec, ouais, essentiellement.
C'est de
90% de Malbec.
De 80 à 100%.
Voilà.
La particularité du Cahors, c'est un cahier des charges à 80% ou 70% minimum, mais souvent 80% ou 100%. La tendance lourde
qui est porté par les, le marché international Malbec argentin, c'est de, d'appeler Malbec et de faire du 100% Malbec.
Du 100% Malbec.
C'est la tendance lourde commerciale.
Mais eux, justement, sur leur Malbec, leur combat, en quelque sorte, c'est d'enlever tous ces tanins, tout ce truc un peu astringent du Malbec pour arriver à en faire un vin un peu plus rond. Non, je me trompe. Elle boue, Catherine.
Oui.
C'est la vinif.
C'est la vinification, essentiellement. Mais il est vrai que si on revenait à des Cahors plus anciens, dans des décennies antérieures, c'est un vin qui était difficile à boire,
oui,
parce qu'il était très tannique.
Ben oui.
Donc, ils ont assoupli un petit peu.
Jusqu'à parfois l'enlever complètement.
Voilà. Non, il y a quand même du corps derrière, il est très présent, il est plus fondu. Voilà.
C'est une technique de vinification.
Voilà.
Qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et aussi, les conduits du vignoble.
Et la part du terroir là-dedans. C'est pas le même terroir, les vins des Coteaux du Quercy et les vins de Cahors?
Pas tout à
non,
fait.
Non. Ils ont beaucoup moins d'argile, vraiment. Ils ont beaucoup moins d'argile. Donc,
oui, mais ceux qui sont dans la partie.
C'est fait.
Il y a des terroirs semblables, mais on n'est pas sur le même cépage mâle.
Ouais.
Notre cépage principal, c'est le Cabernet Franc. Donc la principale différence, c'est bien de là.
Vous, cépage principal, vous nous l'avez déjà dit, mais on va le répéter, donc c'est Cabernet Franc.
Entre 40 et 60%.
Ensuite, il y a du Tanat.
Merlot.
Ah, pardon.
Côte, Tanat, 25%.
Côte, c'est Malbec.
Oui, Côte, c'est Malbec. Oui.
Ah, mais... Voilà. Donc, mais vous.
Côte
vous
ou me dites,
non, c'est pas du tout le même cépage, il n'y en a pas.
Non, mais on n'est qu'à
25%. 25%, maxi.
Maximum.
Oui, mais il y en a.
Il y en a aussi.
Mais quand même, à côté, il y a du Cabernet majoritairement.
D'accord.
Du Cabernet Franc.
Le Cabernet Franc qu'on retrouve dans le Bordelais.
Tout à fait.
Tout à fait.
Ah, ouais, voilà. Ah, hey. 4 ans et demi d'émission Qu'est-ce qu'on déguste pour arriver à.
Non, c'est un grand soir parce que pour une fois qu'il dit un truc bien, c'est pas mal. Hein. C'est un autre. Il faut trinquer pour ça.
Sur quoi est-ce qu'on tourne?
On va écouter Horse Power Productions, un petit coup de dubstep. Sur le label.
Dans une petite.
Jean-Jacques Bousquet.
Oh. Si, oui, non, on écoute ça.
C'est sur le label Tempa, ça vient de l'Est londonien. On est aux racines du dubstep avec ses Horse Power Productions.
Eh, bouge,
Et t'as raté quelque chose, Rémi. Rémi, t'as raté quelque chose, regarde ce qui flotte dans la bouteille.
Non, mais je sais, le bouchon a cassé, donc il a fallu l'enfoncer.
Le bouchon a cagué, donc on l'a.
C'est pas grave, ça. Là, il y a du tanat.
Non.
Il n'y a pas de tanat.
Non,
chez Mousquet.
Il y a très peu.
Pour le coup, je sais, chez Mousquet, pas de tanat.
Il y a par contre des petits rendements.
C'est boisé.
Il y a des
petits rendements.
Ah ouais, ça c'est boisé. Ça, il est aromatique, en diable. Hein.
C'est le bois, là.
Il y a du bois aussi. Hein.
Ouais, c'est le bois. Ça, c'est le boisé. Oui. La barrique.
Le sein, direct.
La barrique.
C'est la barrique.
Et puis, c'est rond.
Non, mais au nez.
C'est les rendements.
Au nez, ça faisait.
Mais c'est le boisé.
Mais au goût, c'est pas pareil.
Ouais. Le bois est pas désagréable, il est pas.
Il est fondu.
Ouais. Il est présent au nez, mais en bouche, il est pas désagréable. Il n'y a pas
si. Il est plus discret.
De vanille,
il est plus discret, oui.
Ouais, de vanille ou de coco qui masque les arômes du vin. Il est.
Faux cul. Oui, il faut qu'il supporte pas le boisé.
Parce que là, il est jamais faux-cul.
Mais il est poli.
Mais il est jamais faux-cul, il dit toujours ce qu'il pense.
C'est faux, non, t'es faux-cul, parce que pas mais par politesse, c'est bien, c'est agréable.
Non, si c'était pas bon, je le boirais pas. Le vin des Coteaux du Quercy, c'est du bois, c'est pas de bois.
Très peu de bois en fait.
Très peu de bois.
Epsilon quoi.
Des volumes chez plusieurs viticulteurs qui font pour élargir la gamme proposent du Quercy boisé, mais chez chacun ça représente entre 10 et 25% maximum.
Oui, parce que au concours des Coteaux du Quercy, il y a plus de non-fûts que de fûts.
Ah oui.
Tout à fait, oui.
Et je pense que c'est là qu'il s'exprime le mieux d'ailleurs, que sans fûts, sans bois.
Chacun, voilà. Donc je pense que c'est un allongement de la gamme qui amène à chacun à faire du boisé.
J'adore écouter du sang londonien buvant du coteau du Quercy. Ça fait.
Oh, c'est le début d'un poème, ça.
C'est vrai que ça me plaît aussi. On va vous libérer, monsieur le président, parce que je sais que vous avez des obligations. Organiser deux journées portes ouvertes dans les vignerons des coteaux du Quercy, ça se fait pas comme ça. Donc on va vous laisser vaquer à vos occupations. Juste quand même avant de partir, la fonction de président, ça fait quand même quelques temps que vous l'assumez. Vous n'en avez pas marre. Vous souhaitez continuer encore longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, peut-être des élections pour avoir un président et qui serait à l'image de l'UMP, tu sais, des mecs qui se tirent les pattes. Alors, un coup de fourche, ouais.
Non, par rapport à ça, je suis rassuré. Et si ça arrivait, j'accepterais qu'on me remplace volontiers. Mais pour l'instant, il n'y a pas fou le papillon, honnêtement. Et donc, je fais ça avec maximum de disponibilité. Donc,
Est-ce que c'est un gros boulot? En quoi ça consiste, à part venir faire qu'est-ce qu'on déguste
J'ai des sorties plus prenantes que ce qu'on déguste. Si on veut suivre ce qui se passe dans l'environnement viticole de Midi-Pyrénées, puisque donc il faut participer au vin du Sud-Ouest, il faut se tenir informé. Il faut faire de la représentation, il faut répondre au téléphone, puisqu'on ne décide pas, c'est toujours le président et son conseil qui décident. Et donc, il faut faire des choix, communiquer, ça coûte cher, jusqu'à quel niveau de budget on peut aller, c'est un débat permanent, et puis donc, voilà. Mais quand il faut choisir, ou quand il faut trancher, on est souvent seul.
Ouais, c'est le président qui tranche.
Au Crayon voilà. Aussi?
Oui, à l'INAO régional, donc, de Vaillac, je suis présent aussi.
Et c'est regarder, être président, c'est regarder vers l'avenir. Et quand on regarde vers l'avenir en tant que président des vins des coteaux du Quercy, qu'est-ce qu'on imagine? Parce que maintenant, vous avez l'AOC, ça y est. Et alors, quoi plus? C'est quoi le derrière?
C'est rien de plus, c'est que des producteurs puissent vivre bien de leur travail et inciter les exploitations qui n'ont pas de repreneur à en trouver un et pour poursuivre longtemps après moi, donc l'appellation des coteaux du Quercy.
Il y a beaucoup d'appellations dans les coteaux du Quercy là qui vont passer la main, pardon, de vignerons qui vont passer la main.
Il y a un certain nombre de vignerons qui seraient en âge d'avoir besoin de trouver un repreneur, mais ça ne s'improvise pas aussi facilement.
Et ouais, il faut que ça s'accompagne.
Il y a des investissements, il y a une reprise qui est de capitaux et d'équipements qui sont assez lourds.
Sinon, il y a la prime à l'arrachage. Mais c'est quand même dommage.
Ça y est plus.
Ah, c'est fini, jamais... le arrachage?
Non, elle n'existe plus. Et lorsqu'elle existait, on était, et qu'on en avait la possibilité, on était contre l'appellation.
Bah, tant mieux. Bien fait pour tout le monde.
On défendait un patrimoine local qui permet de planter sur certaines parcelles.
Non, mais c'est surtout que, voilà, vous avez un vin qui aujourd'hui, d'un vin il y a 20 ans, qui était un vin de table, où tout le monde s'en foutait un peu. Qui est un vin qui
on a
de la gueule
avec une diversité et un goût.
Non mais c'est vrai.
Mais, ouais, mais en interdisant l'arrachage, je m'étais pas fait avec des amis quand même.
Ah bah bravo monsieur le président. Moi je vote.
Quel courage.
Monsieur Vignard.
C'est vrai, on fait une partie.
Allez, on vous libère, vous avez le droit de partir. Merci d'être venu. On sera en train qu'à sa santé. Oh. Attends, je regarde ma feuille.
Recette.
Ah déjà?
Ben oui.
Allez.
Sinon après c'est foutu.
Il cherche la page.
Non mais c'est non.
Ça. Enfin, comment être chroniqueur dans une émission de radio? Juste rien, tu t'achètes des bons bouquins et tu lis.
Oh bah les bons bouquins, mon pauvre. Ça c'est la cuisine paysanne d'Huguette Coufignal. Aux éditions Solar, j'ai trouvé ça sur un vide-grenier, mais c'est introuvable. C'est introuvable. Alors, avec des coteaux du Quercy, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, des côtes de porc au vin rouge, une daube de pied de porc, ou un lapin en daube aussi.
Lapin.
Mais j'ai envie de, tiens, la daube de pied de porc, parce que le pied de porc, je trouve que c'est quand même quelque chose que ça coûte rien, et c'est pas valorisé. Alors, c'est vrai qu'on mange on s'en fout pas plein la panse. On en trouve partout, chez tous les bouchers, on trouve ces pieds de porc, sur le marché, des producteurs, on trouve tout ça. Une daube de pied de porc, il nous faut 6 pieds de porc nettoyés, une tranche de ventrèche, des oignons, des carottes, émincé, de l'ail, du persil, du sel, du poivre et du vin rouge. Donc ça peut être un vin tannique. On va y mettre du guillot.
Ça, ouais. Lafage aussi.
Ou du lafage, ça serait pas mal. On fait comment? Ben on prend de la ventrèche. Ouais, c'est du lard, enfin du lard avec un peu de viande de porc. Hein, c'est la ventrèche, c'est le ventre. Hein. On coupe ça sous forme de lardons, on les fait fondre. On rajoute les légumes, c'est-à-dire oignons et carottes émincées, et on laisse étuver. On y range les pieds de porc et on couvre à hauteur avec le vin. Donc, on a dit, ça peut être du domaine de la Fage, ça peut être du Guillot. Un bon vin rouge avec... avec du corps. On rajoute du sel, du poivre, de l'ail et du persil. On fait mijoter à petit feu à couvert. Ou alors on peut le mettre en cocotte et au four. Vous comptez 2 heures de cuisson. Tranquillement, 160 degrés à peu près. Ça cuit tout seul, etc. Et puis après on sort ça et on sert. On peut servir avec des petits croûtons de pain aillé. Alors le pied de porc, il n'y a pas grand chose à manger dessus, mais par contre qu'est-ce que c'est gustatif. Et alors bon, il faut aimer la gélatine, il faut aimer la gelée. Hein. Oui, c'est okay. Bon.
Je suis d'accord avec Catherine, c'est pas gustatif, c'est goûte.
Voilà. Et ce qui fait la différence, quand on a mis son vin rouge, on rajoute un petit verre d'oignon là-dessus. Ah. Voilà.
D'ailleurs, je lance un appel. Quelqu'un s'est introduit dans la cave, le placard qui sert de cave à Qu'est-ce qu'on déguste ici, à CFM Radio, et a siphonné toute.
La poire. La semaine dernière déjà, elle avait drôlement baissé.
Cette semaine, elle a complètement disparu.
Ah bon, t'as des soupçons?
En tout cas, c'est pas l'émission qui vient après nous, parce qu'ils boivent pas d'alcool.
C'est pas
l'émission. Je me demande s'ils cachent pas bien leur jeu, tiens, en bouffant des pizzas congelées.
Non,
congelés,
une fois passé, il nous est arrivé d'en boire un peu avant l'émission. Ah, il faut avouer.
Oui, mais un gorgeon. Il n'y a plus rien à la bouteille. Alors, il faut demander à Olivier Thibault de nous ramener une bouteille de poire prisonnière, parce que là, on n'a plus rien. Olivier, au secours.
Oui.
Ou du Delpont.
C'est Zardos. Catherine Tourneur, c'est difficile d'être une femme technicienne dans un milieu de vignerons, parce qu'il y a quelques femmes, mais il n'y en a pas beaucoup, des vigneronnes.
Moi, c'est au début de mon activité professionnelle que j'ai eu quelques difficultés. J'ai eu la grande chance d'être embauchée au Château La Palme, qui était tenu par Martine Étouin, une femme qui a embauché une femme. Et qui, donc, m'a propulsée, et j'ai fait mes preuves, et puis...
C'était où? C'était dans quel...
À Fronton. Et donc, ça m'a propulsée, et puis, bon, je pense qu'on a autant de compétences que d'autres, et...
Ah, mais ça, voilà. Ça, personne n'en doute.
Oui.
Mais c'est dans le comportement, dans l'imagerie...
Ils sont machos, les vignerons.
Ouais, voilà, un petit peu.
C'est quand pas
même
du
une,
tout.
C'est quand même une femme qui vient nous expliquer comment il faut qu'on fasse notre boulot, quoi.
En fait, je me suis pas heurtée à ce genre
c'est
de...
Vrai
non, pas du tout.
Bon, tu vois.
Du moins dans les secteurs sur lesquels je suis, j'ai vraiment pas eu de problème.
Ouais.
Souvent, les vins faits par les femmes sont beaucoup plus, c'est un aphorisme, elles sont beaucoup plus féminins, elles ressentent beaucoup mieux le terroir.
Non, je pense que ça ressemble plus.
C'est la poète.
Quel poète. Alors que l'autre, il aurait pu dire « Ouais, mais les vins faits par les femmes, c'est vachement plus tarnique.
C'est tarnique ta mère. »
Non, je pense que tout simplement, on a peut-être plus de feeling à écouter les gens, peut-être. Donc, à conseiller, le conseil est peut-être plus approprié. Et quoique l'équipe Viti à la Chambre d'agriculture est constituée de trois garçons et moi deux filles, il y a le laboratoire où il y a un garçon et deux filles et on passe très très bien. Voilà.
Je regarde l'heure en même temps parce que si je vous pose une question qui risque d'être trop longue.
Bon, les causes, parce que là, tu perds du temps.
Ouais, c'est vrai. En même temps, non, on va se poser. On va écouter un peu de musique. Puis je vais poser la dernière question à Catherine juste après.
Drinking and smoking, the world stinks when I think of each one wants to be one. It's getting on my nerves, all important the visuals. Fuck it. Take your clothes off, let your hair grow and fuck off. Laughing and crying, life should be dying. We shot so from cancer, we hope we won't suffer. God stay above us and watch us. I got a message for you, you and you. Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, glow from the inside of your soul. Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, glow from the inside of your soul. Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, glow from the inside of your soul. Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, glow from the inside of your soul. And it must be depression now.
And a fear today.
And it must be depression now.
And a fear today.
And it must be depression now.
And a fear today.
And it must be depression now.
Yeah,
it must be the crush on life. And it must be the crush on life. It must be the crush on life. And it must be the crush on life.
Each day I see only eyes on the ground and the game's massive. So come on, you have your eye, you're thinking of your nature, my thing to resist the void. Zero, it's that is just a pain in the scenery. How would you do that? Black nations that get older, always stagnant.
Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, go from the inside of your soul. Now put your Rolex in your ass and go back. Shine, go from the inside of your soul. Now put your
Rolex. La cafetera ouais. Roja, ça s'appelle, avec la jota, tu sais. C'est espagnol, ça, mon gars. Et c'est rudement bien. La cafetera roja, si vous voyez ça passer quelque part près de chez vous, n'hésitez pas. On fait un petit retour sur les femmes dans le monde paysan.
Non, parce que viticole.
Vous... Viticole.
C'est pas des paysans, les viticoles, les viticulteurs, les viticoles.
Les vignerons.
Les vignerons.
Le viticulteur est un industriel, le vigneron est un paysan, un terrien.
Oh là là.
Eh oui.
D'accord. C'est vrai, c'est la bonne définition, Catherine ?
Oui.
Ouais.
Malheureusement.
Bon.
Non, mais moi, je vais donner la parole à Virginie Banzi, parce qu'en fait, c'est ma collègue, l'animatrice. Et du fait qu'on a beaucoup de, enfin, on a beaucoup, on a quelques femmes vigneronnes en Coteau du Quercy, et ben Virginie va nous parler d'une animation spéciale femme.
Ben ouais, c'est quoi cette animation, Virginie?
Donc, la première année que je suis arrivée au syndicat, donc je suis au syndicat depuis 2006.
Ouais, ça commence à faire.
Et
hein.
En 2006, on a mis en œuvre une idée qui germait dans la tête de Cathy, notamment, et de quelques d'autres. Donc, on fête chaque année la journée de la femme. Donc, qui est le 8 mars. Et donc, la semaine du 8 mars, on fête la journée de la femme et on propose une journée découverte sur l'appellation. Alors, en général, on essaie d'aller rencontrer une viticultrice puisqu'on a pas mal de viticultrices ou du moins des femmes de viticulteurs qui sont très impliquées. Et aussi, on découvre des à côté. Hein. Donc, on peut aller rencontrer qu'est-ce qu'on a fait. Mais on est allé voir, on fait des choses autour du tourisme, de la culture ou autre chose dans le monde agricole. On avait déjà visité une station truffière, des choses comme ça. Donc voilà, donc chaque année donc la journée de la femme qui se clôture par une intronisation de la part de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, intronisation exclusivement de femmes, hein, voilà.
Ah, un repas aussi de
la dégustation de vin, voilà.
Oui, il y a des femmes, tout à fait. Dans la confrérie.
Il y a des femmes dans la confrérie. Et donc, le jour de la journée de la femme, notre grand maître, Pierre Bauginot, intronise que des femmes. Voilà.
Il doit être aux anges.
Ah, il est aux anges, voilà.
You need a real man.
On peut pas parler de tout.
on va pas parler des bios, mais il y a des bios qui arrivent... D'abord parce qu'il y en a, il y a Mayac et Lafage, et puis il y en a d'autres qui arrivent.
Oui, il y a aussi Pêche Rebelle, et puis il y a des coopérateurs qui se lancent dans la bio aussi.
On en parle très souvent du bio sur CFM, et dans Qu'est-ce qu'on déguste particulièrement.
C'est très bien.
Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. Je parle un peu à bouche pleine, je suis désolé. Mais...
Et t'es en train de bouffer la boîte.
C'est hyper bon ça.
Mais il en reste encore une boîte.
Quand même que c'est du pâté de canard au poivre vert de la ferme de la Grande Borde, qui est située où?
À Goas, à côté de Beaumont. C'est à l'autre bout du département.
C'est en Tarn-et-Garonne,
monsieur. Ouais, 82-500 Beaumont.
Avant qu'on se quitte, Catherine, qu'est-ce qu'il y a dans votre cave à vous?
Des vins du Tarn-et-Garonne.
Oh, arrêtez,
non, en fait, il y a des vins.
Il y a
des vins du Tarn-et-Garonne parce que, entre autres, on m'en offre.
Voilà. Mais en plus, ça dure quoi, 5-6 ans, du Tarn-et-Garonne, pas plus.
Oui. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que bon, j'ai fait mes études avec des filles qui ont des châteaux, des châtelaines de tous les coins de France. Et j'ai la chance, bien sûr, d'avoir plusieurs vins de toute la France. Voilà.
On vient d'en goûter ça.
Et d'avoir une super cave. Ouais.
Elle dit rien, tu vois, quand ouais. des vins et de châtelaines de toute la France.
Et l'animatrice Virginie, elle a une cave ou pas?
Alors, elle a une cave, mais elle va vous faire rire parce que la cave, elle a pas le temps de se remplir qu'elle se vide. Voilà, c'est plus une cave. Donc voilà, essentiellement, c'est vrai, beaucoup de vins du Tarn-et-Garonne, parce que moi, j'ai travaillé dans d'autres appellations aussi, dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, voilà, mais une petite particularité pour les vins d'Alsace, puisque c'est une région qui me tient à cœur, où j'ai de la famille là-bas. Et donc,
Vu
qu'on n'a pas de blanc chez nous, en Coteau du Quercy, et ben, je me régale avec les blancs d'Alsace.
Les blancs d'Alsace, qui sont presque les meilleurs blancs du monde.
Donc, un petit clin d'œil à ma famille en Alsace.
Mais moi, je conseille quand même de goûter les vins du Tarn-et-Garonne.
Mais voilà. Oui, mais c'est
parce
sûr.
Parce que mais c'est vraiment qualité-prix, c'est super.
Et bla, tu vois, c'est ça. Dès qu'il n'y a plus le président, les filles, ça se lâche, quoi. On n'aurait pas dû l'inviter, moi, je te dis. Mais ça y est, on est au bout de l'émission. Catherine, Catherine Tournaire, technicienne à la Chambre d'agriculture. Bravo pour le travail que vous faites auprès du syndicat de défense
de la OCDE. Elle est Catherine Tournaire.
Non mais arrête un peu, on arrive au bout de l'émission, tu vas pas me couper non plus, blablabla, et ça y est quoi.
Mais
c'est ça.
Allez, on va dépasser, c'est bon, salut.
Mais voilà, ciao tout le monde, on se retrouve demain, Aurélien, nous, pour
Scarcrow et Alice Kitchen au Rio Grande à Montauban.
En direct sur CFM Radio. Non, toi, tu seras pas parce que blablabla. Merci.
Qu'est-ce qu'on déjà?
Journée porte ouverte tout le week-end chez les vignerons à Coteau du Quercy. Ciao.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.
CFM. Le sport. Tous les sports. CFM. L'actu sport.
Bonsoir.